Bien le bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron, comme à l'habituel, qui vous accueille chaleureusement. Alors ce matin, où en sommes-nous dans notre étude du livre de Daniel? Nous en étions au chapitre 5 et nous l'avions déjà amorcé. Nous poursuivrons donc ce matin en lisant les versets 10 jusqu'au verset 31. Donc, Daniel chapitre 5, verset 10 jusqu'à la fin du verset, en fait, le verset 31, et ça va comme suit. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement. Que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints, et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, au roi, l'a établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur, de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lisent cette écriture et m'en donnent l'explication, mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Daniel répondit en présence du roi, « Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Au roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence, et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec des ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur. Quoique tu saches toutes ces choses, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. » Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre, on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Voilà donc la fin de la vie de ce pauvre et pathétique roi Belshazzar. On se souviendra que lors de notre dernière émission, n'est-ce pas, nous avions laissé Belshazzar et ses invités dans une très grande frayeur. La soirée bien arrosée avait été considérablement assombrie par la frayeur, hein, après l'apparition sur le mur d'une écriture faite par des doigts d'une main d'homme. Et personne, donc, dans toute l'armée des conseillers et des sages du roi, ne pouvait lire les mots écrits et non plus qu'en donner l'explication. La reine, par quelques circonstances, est mise au courant de la situation et dans le texte de ce matin, elle fait donc son entrée dans la salle du festin et elle recommande au roi de faire venir Daniel. Alors nous voyons donc dans un premier temps la recommandation de la reine. On ne sait pas trop pourquoi la reine était absente du festin royal. Peut-être qu'elle ne prenait pas plaisir dans ces beuveries, n'est-ce pas, où on donnait libre cours à toute passion. Quoi qu'il en soit, son discours éloquent est tout empreint de bon sens. Alors, il est fort probable que cette reine-là était la mère, ou plus vraisemblablement, la grand-mère de Belshazzar. Ce qui expliquerait d'ailleurs sa grande familiarité avec les actions passées de Daniel. Chose certaine, il ne serait jamais venu à l'esprit du roi de faire venir Daniel, n'eût été de cette plaidoirie de la reine, hein, qui semble bien au fait du rôle de Daniel dans l'interprétation des rêves de Nebuchadnezzar, le père ou plus vraisemblablement le grand-père de Belshazzar. Le discours de la reine, écoutez, ça a quand même dû être un peu gênant pour Belshazzar. Comment se fait-il qu'il ignorait les services de Daniel? Hein? Nous lisons au verset 11 et 12, « Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints, et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence, une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, et le roi, ton père, l'établirent chef des magiciens et des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication au roi. » Quand même étonnant que Belshazzar ait ignoré Daniel. Il était quand même le boss, si vous me passez l'expression. En Nebuchadnezzar l'avait établi chef de tous les conseillers de l'époque. Et on peut encore ici apprécier la qualité du témoignage laissé par Daniel. Il était reconnu pour sa proximité avec Dieu, reconnu pour sa sagesse, son agir en général qui avait fait de lui le chef des conseillers de Nebuchadnezzar. Donc, la reine de dire « Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints » ou on pourrait aussi traduire « l'esprit du Dieu saint ». C'est donc ainsi que Daniel est introduit dans la salle du festin, en présence du roi et de ses invités. Versets 13 à 17. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux, et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lisent cette écriture et m'en donnent l'explication, mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. j'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume. » La réplique de Daniel a quelque chose de cinglant. Daniel répondit en présence du roi, « Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. » En d'autres mots, ce que veut dire Daniel, c'est « Roi Nebuchadnezzar, garde tes bébelles, j'en ai strictement rien à cirer, mais je vais quand même te dire ce que Dieu te réserve. » Voyez-vous, Daniel n'est d'aucune manière motivé par le gain ou par le profit, mais bien plutôt par la fidélité. Et ça, chers amis, c'est la marque d'un véritable prophète. Al Capone croyait que tout le monde avait un prix. Il disait, si quelqu'un refuse de se laisser acheter, c'est parce qu'on ne lui a pas offert assez cher. Ben, il n'avait manifestement jamais rencontré un véritable homme de Dieu. On ne peut pas acheter un vrai serviteur de Dieu. Voyez-vous, un serviteur de l'Éternel n'a pas les mains liées. Il n'est en dette envers personne, si ce n'est envers Dieu, le Dieu qu'il sert. Alors, on est loin ici de Balaam, le prophète de l'Ancien Testament, que Balak, le roi de Moab, avait fait venir là en lui disant « Maudis ce peuple et je vais t'enrichir considérablement ». On est aussi très loin d'un personnage qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, au chapitre 8, et qui a pour nom Simon le magicien. Nous lisons verset 18-20, « Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » D'ailleurs, c'est de ce personnage-là, Simon le magicien, que vient l'expression « la simonie ». Voyez-vous, rechercher toujours le profit, même dans les choses spirituelles. Et plus ça change, dirait-on, plus c'est pareil. Combien de gens croient encore aujourd'hui que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, le salut de Dieu s'achète par des offrandes, qu'on peut acheter son ciel par des offrandes, par des bonnes œuvres, en achetant des services religieux, en faisant des dons, en faisant brûler des lampions, et j'en passe. Le don de Dieu, de reprendre l'expression de Pierre lui-même, ne s'acquiert pas à prix d'argent, par définition, c'est un don. D'autres, à l'opposé, croient pratiquement que le don de Dieu, c'est un dû, comme si Dieu leur devait quelque chose et que tout le monde, donc, va aller au ciel. Il suffit uniquement de mourir pour passer dans la gloire. Quelqu'un disait, il y a des gens qui croient qu'il existe un sacrement de la mort, Mais non. Et pourtant, quel ridicule que d'assister aux funérailles des athées dans les églises avec l'eulogie et tout ce qui va avec. Chers amis, la grâce de Dieu. Le salut de Dieu, c'est un don qu'il nous faut recevoir les mains vides. On ne peut d'aucune façon l'acheter. Seul le Christ a payé pour cela. Est-ce que vous l'avez reçu, ce don-là? Êtes-vous venu au Seigneur Jésus-Christ dans l'abandon de cette croyance que vous êtes bon, que vous êtes pas pire que les autres, que vous êtes pas si pire que ça, que vous êtes moins pire que le voisin, que le cousin, que le tonton, et que finalement, en bout de ligne, Dieu va vous recevoir dans son beau ciel. Ben écoutez, enlevez vos masques, débouchez vos oreilles, et voyez la réalité biblique, on ne peut d'aucune manière mériter le salut de Dieu, parce que le salut de Dieu, c'est la justice de Dieu, et la seule justice que Dieu peut recevoir, c'est la justice de Dieu, pleinement accomplie en Jésus-Christ. Et ça m'amène à mon deuxième point, l'interprétation de Daniel. Dans l'interprétation que Daniel donne de l'écriture sur le mur à l'intention du roi, il ne manque pas de mettre en lumière la culpabilité de Belshazzar, ce jeune roi arrogant, en commençant par l'arrière-plan de son péché. Hein? Verset 18-21. Au roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnetsar, ton prédécesseur, ton grand-père, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples des nations, les hommes de toute langue, étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait, et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait, et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva, que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger et son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Voyez-vous, dans sa propre famille, chez ses prédécesseurs immédiats, Dieu avait fait la démonstration de son gouvernement moral. Nebuchadnetsar avait été exalté et il a été humilié jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Ce sont là des événements avec lesquels Belshazzar devait être familier. Il savait pertinemment bien ce qui était arrivé à son père ou à son grand-père. Les choses lui avaient été maintes fois rapportées, et pourtant, qu'est-ce qu'il fait? Ah ben voilà, il répète les mêmes péchés. Hegel, le philosophe allemand du 18e siècle, écrivait avec justesse « L'histoire et l'expérience enseignent que les peuples n'ont absolument rien appris de l'histoire. On tend à commettre les mêmes erreurs, les mêmes fautes, à répéter les mêmes péchés, en pensant que la conséquence va être différente pour nous, voyez. L'humain, il est comme les poissons qui continuent à venir mordre au même appât et en conséquence à se faire attraper. Belshazzar avait tout cela dans son bagage, à savoir qu'on ne peut d'aucune façon impunément faire fi des injonctions divines et vivre comme si nous étions notre propre Dieu. Daniel en vient donc au point précis de la mise en accusation. Nous lisons au verset 22-23, « Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servi pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines, tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. » Dans ce court texte-là, les mots « toi »,« tu », »,« vous » reviennent à 14 reprises pour décrire la folie du roi. Daniel est en train littéralement de mitrailler Belshazzar. Belshazzar qui a manifesté sa dévotion, son culte à toutes sortes de divinités, sauf au Dieu des cieux. Et les choses sont tout à fait semblables aujourd'hui. Les gens vouent un culte à toutes sortes de divinités, à toutes sortes d'idoles. L'idole du sport, les passions de toutes sortes, le matérialisme, le plaisir, toutes les idoles au goût du jour, et ils ne rendent pas gloire au Dieu des cieux. Retenons, chers amis, la phrase du verset 23. « Tu n'as pas glorifié le Dieu qui dans sa main tient ton souffle et toutes tes voies. » Vous voyez, les hommes ne vivent pas avec la conscience de la réalité, alors que, clopin clopin, ils vont leur chemin. Troisièmement, Daniel révèle le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu qui va s'abattre sur Belshazzar, verset 24-28. « C'est pourquoi il, Dieu, a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez, et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisez, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Enfin, ce que Daniel est en train de lui dire, tu es roi, Belshazzar, je dis bien. Les gens t'admirent, hein? Les gens obéissent à tes ordres et ça t'a enflé la tête. Tu te crois important, tu te crois invulnérable, tu te crois autosuffisant. Mais en réalité, tu manques de poids. Tu n'es qu'une plume. Une plume que le jugement de Dieu va emporter au loin par son souffle de justice. Les doigts que Belshazzar a vus ont été envoyés par Dieu. C'est pourquoi, verset 24, Dieu a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Le jugement vient de Dieu lui-même, même s'il sera exécuté par Darius, hein, par les Mèdes et les Perses. Malgré le refus de Daniel, Belshazzar, sans doute confus, paniqué dans tous ses états et peut-être aussi dans un effort de se racheter, honore Daniel. Nous lisons verset 29. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. Et ça m'amène à mon troisième point, la fin de Belshazzar. La réalisation de la parole de Dieu n'a pas tardé. Ainsi, lisons-nous verset 30 et 31, cette même nuit, non pas dans 20 ans, cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué, et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Darius et son armée se sont effectivement approchés de cette place en apparence imprenable. Hein, il y avait des murs extraordinaires, vous savez, et on était absolument certain qu'on était invulnérable à l'intérieur des murs du palais babylonien. Qu'ont fait les Mèdes et les Perses? Ils ont simplement coupé l'alimentation en eau. L'eau entrait par un canal, ils ont arrêté l'eau et ils se sont introduits à l'intérieur par ce même canal pour faire subir cette cuisante défaite à Belshazzar et aux siens. Belshazzar a appris à la dure que Dieu est le Dieu très haut, qu'il est souverain, qu'il règne et que tous auront à lui rendre compte. Vous savez, l'être humain depuis la chute tend à toujours faire la même chose, à croire qu'il est son propre Dieu, qu'il peut continuer à boire son lait comme ça lui plaît, hein, comme dit la pub ou comme disait le poète d'antan, hein, je suis le capitaine de mon âme. Mais non, mais non, mais non. Nous appartenons au Dieu Tout-Puissant, nous avons à lui rendre des comptes. Et la leçon est on ne peut plus claire. Le psalmiste décrit au psaume 90, versets 7 à 12, « Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux, nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due, ô Dieu? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Vous savez, il y a eu tout un chapelet de jugements dans l'histoire de l'humanité. À grande échelle, par exemple, nous n'avons qu'à penser au déluge, hein? Et le plus grand de ces jugements-là, il reste à venir, chers amis. Alors, avant de céder à tous nos caprices, à toutes les tentations qui jonchent nos routes, considérons ces leçons importantes. Comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 11 et 12, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, ainsi donc que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. La vie chrétienne, vous savez, ce n'est pas une vie de privation, là, et de misère. Bien au contraire, hein? Qui, pensez-vous, là, de Daniel et de Belshazzar, avait l'air le plus misérable, hein? Notre Dieu n'est pas un tyran qui se plaît à nous maltraiter. Bien au contraire, en Jésus, il s'est fait notre Père pour nous combler de ses nombreux bienfaits. Comme le Fils prodigue, nous sommes appelés, tous appelés, à venir à lui. Alors, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est de venir au Christ Jésus pour une réconciliation avec lui. Le commencement de la sagesse, ce n'est pas de donner libre cours à nos passions en disant « il faut que je vive cela, je suis incapable de résister hein, » et en tentant, n'est-ce pas, de profiter pleinement de tous les plaisirs passagers et combien coûteux, ultimement, que le monde a à offrir. Non, les plaisirs que le royaume a à nous offrir sont infiniment plus grands, infiniment meilleur et infiniment plus durable, parce que ce ne sont pas des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau, bien au contraire. Alors, chers amis, voilà donc que se termine ainsi l'émission de ce matin qui vous revient en rediffusion cet après-midi à 14h. Vous pouvez nous écrire entre-temps. Notre adresse postale est AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Numéro de téléphone pour les gens de la région de Québec, 418-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel. Vous trouverez notre adresse courriel sur le site même de la station. Et notre site de foi est à foifm.com. Merci d'avoir été là. Passez une bonne journée, hein? Une excellente journée même, et notre rendez-vous est déjà là pour la prochaine. Je vous y attends. Que le Seigneur vous bénisse, et bientôt. Et à bientôt.